Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse, aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Chaque semaine, nous vous présentons des entrevues, des témoignages de personnes consacrées, sœurs, frères, prêtres, qui s'expriment sur des thématiques liées à la vie de l'Église et des communautés religieuses canadiennes, ainsi que sur leurs engagements dans la société d'aujourd'hui et de demain. La semaine dernière, nous vous avons présenté la seconde partie d'une réflexion en trois temps sur le thème « Vie religieuse du présent vers l'avenir », une réflexion menée avec trois jeunes religieuses et religieux ayant dans la trentaine et la jeune quarantaine. Trois jeunes personnes consacrées qui, par leurs actions et leurs prières, construisent la vie religieuse de demain. Afin de poursuivre et clore ce trio d'épisodes, j'ai de nouveau à mes côtés Sœur Ginette Généreux, recluse missionnaire qui a prononcé ses vœux perpétuels en 2008, Violaine Paradis, sœur de la Congrégation de Notre-Dame depuis 7 ans, et frère Martin Lortie, qui a officiellement joint l'Ordre des moines cisterciens en 2009. Bonjour à vous trois!
Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
La semaine dernière, on a présenté vos nombreuses sphères d'engagement, tant au sein de l'Église que de la société. Cette semaine, on s'attaque à une question épineuse. Quel avenir pour la vie religieuse? Tout d'abord, quel regard est-ce que vous posez sur ce que plusieurs perçoivent comme une crise de la vie religieuse et consacrée? En tout cas, le terme « crise » revient souvent quand on lit ou on entend des reportages sur la vie religieuse. Comment vous réagissez à ce diagnostic, si on peut dire? Martin.
Ben, je trouve qu'on devrait plutôt élargir la question. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une crise des institutions qui n'est pas seulement celle de la vie religieuse, mais celle de l'Église en général. On peut même dire celle de l'institution militaire, politique. Je veux dire, il me semble qu'il faudrait plus élargir ça pour pouvoir peut-être mieux comprendre le fait qu'il y a une crise de vie religieuse, qui est vrai, en fait, au Québec, là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avenir pour autant. Tu sais, parfois, on idéalise beaucoup le passé en disant, ben, bien, ça, c'est comme ça avec toutes les périodes de l'histoire. Je veux dire, à leur naissance, c'était mieux. Au Moyen-Âge, c'était mieux. Moi, je vois pas ça dans cette perspective-là. Je vois plutôt comme une forme d'évolution, si tu veux, de la vie religieuse au Québec, avec notre passé, notre héritage qu'on a eu dans les années 50, les années 60, évidemment, où l'institution Église était vraiment présente. Je pense que il n'y a plus personne qui veut retourner à cette époque-là. Hein? Mm-hmm. Je pense qu'on vit la foi autrement, et je pense que c'est dans ce cadre-là que doit se situer la vie consacrée.
Oui. Sœur Ginette?
C'est clair qu'il y a une diminution, mais une crise, je ne serais pas prête. Il y a une diminution, oui, par rapport à ce qu'on a connu. Oui. Mais il y a peut-être plutôt une crise de la foi en Dieu. Mm-hmm. Parce que moi, des personnes, des jeunes qui découvrent Dieu et qui se posent la question de la vie religieuse, j'en rencontre oui. d'une façon régulière. Mm-hmm. Alors...
Oui. Et donc, la question reste toujours présente. La question du sens aussi, sœur ouais. Violaine.
Il y a une image qui est très belle quand on parle de... Et c'est... j'avais entendu lors d'un colloque sur la vie religieuse aujourd'hui. Et c'est l'image de l'arbre. Là, c'est dommage parce que j'ai pas la citation exacte, mais ça parle d'un arbre. Quand... Dans une forêt, on parle d'un grand arbre qui tombe, mais il ne faut pas oublier que toutes les petites pousses qui sont en train de germer puis de grandir tout autour, ça me fait penser à ça quand j'entends crise de la vie religieuse.
Dans le fond, le bruit de l'arbre qui tombe nous empêche d'entendre
la forêt qui
germe.
Et c'est tout un écosystème dans lequel la vie religieuse, c'est tout un écosystème, le disait le frère Daniel Cadrin, dominicain. Et oui, il y a ce grand arbre-là qui tombe, mais il y a, dans l'écosystème, on est plusieurs types de communautés à se soutenir dans ça. Mais c'est dans cette transformation qui est en train d'advenir.
Oui, donc les germes en question, c'est un peu de nouvelles sortes de vie religieuse, hein, qui sont en train d'émerger.
Une espèce de mot religieuseux, si tu veux, une espèce de... C'est anthropologique. Il y aura toujours des gens, que ce soit dans la tradition chrétienne, bouddhiste, qui sont appelés, si tu veux, à la solitude, hein, à vivre une recherche de Dieu en communauté ou non. On pense aux ermites, par exemple. Oui. Mais il y aura toujours cette recherche de transcendance qui va traverser l'histoire. Je ne pense pas que ça va s'éteindre parce qu'on est dans une supposée crise, si tu veux, des institutions. Mais évidemment, Sœur Violaine le disait tout à l'heure, on est là pas nécessairement pour faire nombre parce que notre société est basée sur le fait que si c'est nombreux, c'est que ça a du succès. Oui. C'est comme une équation tout à fait logique pour eux, alors que nous, on est là pour faire un signe, pour montrer quelque chose d'autre. Mm-hmm. Alors, ce qui fait qu'on est dans une espèce de décalage par rapport à la culture dominante du nombre et puis de l'ampleur qu'on peut avoir, disons, au niveau numérique.
Mm-hmm. Oui. Est-ce que vous croyez que de passé toute une vie dans la foi est plus difficile aujourd'hui et que possiblement que ce sera encore davantage demain, là, mais est-ce que vous croyez que c'est plus difficile aujourd'hui que, disons, au début du siècle dernier de vivre toute une vie dans la foi et particulièrement une vie consacrée? Sœur Ginette?
Non, moi je le crois pas parce que les défis de fidélité, les défis d'engagement, c'est toujours, c'est de toujours. Le contexte change, mais pas les défis à ce niveau-là. Pour perdurer, pour vraiment s'engager profondément dans notre vie religieuse, non.
Oui. Martin?
Ce qui est peut-être le plus difficile, enfin, moi, les témoignages que j'entends au monastère, c'est que les gens, nous, on vit dans une communauté où tout le monde a la foi, forcément. Donc, c'est facile de la vivre. Mais pour les gens de l'extérieur, par exemple, ce qui est le plus difficile pour eux, c'est de témoigner de leur foi dans un monde sécularisé. Ça, on rencontre ça parfois assez souvent en disant, mais des fois, j'ai un peu peur de m'afficher, quoi que ce soit. Puis, puis le défi pour eux, c'est justement de pas nécessairement le crier sur les toits, c'est pas ça, mais de pas avoir peur de dire, moi, j'ai la foi en Dieu. Alors que il n'y a pas de mal à avoir la foi en Dieu, forcément. Puis surtout quand on est un petit peu intellectuel, il y a un peu de mépris de la part des autres en disant finalement la foi c'est régressif, etc. Tu vois un peu. Donc ça, je pense que c'est peut-être plus difficile à ce niveau-là. Mais comme Sœur Ginette le disait, nous on a des témoignages des fois de quand on lit l'histoire du monachisme là, au 15e, 14e siècle, là, des moines qui allaient à la taverne ou quoi que ce soit. Alors je veux dire, il y aura toujours une difficulté à vivre la vie consacrée et la fidélité. Ça reste les mêmes défis au jour le jour. L'être humain est l'être humain, tout simplement.
Oui, Sœur Violaine.
Et puis notre monde change. Le monde change. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que ça change beaucoup, mais dans le fond, au début du siècle dernier, il y avait des gros changements qui sont survenus aussi. Mais je crois que c'est difficile si on n'est pas ancré solidement. Puis le fait d'être ancré solidement, la solidité de notre engagement nous aide à passer à travers ces changements-là. Mais C'est ça.
Et ça de tout temps.
De tout temps. Oui. Et comme disait Martin, c'est ça. Depuis le monachisme, ça se passe comme ça. Et c'est garant de notre ancrage.
Oui. Aussi. Et dans le fond, clairement, c'est quoi les défis présents et à venir, ceux que vous entrevoyez possiblement, de la vie religieuse? Donc, les défis présents et à venir de la vie religieuse. J'ai lu, en préparant l'émission, Sœur Violaine, vous avez évoqué, bon, entre autres, ça peut être la réaction des proches, mais surtout, des fois, pour certains, le manque de soutien ou un peu la méconnaissance de ce qu'est la vie religieuse et donc une réaction un peu de crainte. Est-ce que ça peut être un aspect, un défi, ça, le soutien rare, mitigé des proches?
Oui. En même temps, comme on choisit, quand je veux parler en jeu, j'ai choisi la vie religieuse, la communauté. La communauté m'aide peu à passer à travers ces moments-là qui peuvent être plus difficiles où finalement les proches que j'ai connus sont moins proches finalement. Mais en même temps, c'est un défi, mais il y a comme une grâce qui va avec les amitiés peuvent changer aussi. Ouais. Et les amitiés peuvent rester aussi.
De nouvelles amitiés
se créent. Et puis moi, c'est à moi d'éclairer mes amis qui me soutiennent plus ou moins, mais de les accueillir dans ça, dans le fait qu'elles ne sont pas sûres.
Sœur Ginette?
Moi, c'est sûr qu'un défi que je perçois, c'est compte tenu que maintenant, on va aller vers un plus petit nombre et qu'au niveau des jeunes religieuses, on est dans une minorité dans nos communautés, toutes les œuvres que nos communautés ont mis en place, nous, ça va être un défi parce que
Qu'est-ce qu'on garde?
Qu'est-ce qu'on continue? Qu'est-ce qui est propre à nos charismes? Nous, on ne pourra pas tout continuer et tout prendre en main, tout ça. Alors, il va y avoir un grand discernement et je crois que c'est entamé, mais c'est un défi. C'est vraiment quelque chose qui dit « ouf ».
Donc, il y a un choix douloureux, j'imagine, là, parfois, dans tout ce qu'a pu faire différentes congrégations, communautés.
C'est ça, et ça demande une grande écoute de la part de nos communautés envers les jeunes générations pour dire, bon, c'est quoi leurs aspirations et comment ces aspirations-là peuvent continuer le charisme aujourd'hui et non pas leur imposer la continuation de telle œuvre, telle institution, telle...
Est-ce que vous diriez qu'il y a un défi interculturel? La semaine dernière, on parlait du dialogue interreligieux, interculturel, donc de la participation des religieux, religieuses à ce dialogue. Mais à l'intérieur même de vos communautés, congrégations, est-ce qu'il y a un défi interculturel, donc de faire cohabiter des personnes consacrées venant de différents horizons? Sœur Violaine?
On sort d'un chapitre au sein de la congrégation de Notre-Dame, un chapitre qui a eu lieu à l'été et ça a été beau parce qu'on a notre nouveau conseil général est constitué de sœurs qui viennent d'Afrique, du Cameroun, mm-hmm. du Honduras, des États-Unis, du Canada. Et en fait, je dis ça, ça a été comme le fruit de la réflexion des capitulantes, des sœurs qui ont réfléchi sur l'avenir de notre communauté, sur les orientations qu'on veut leur donner. Mais c'était une question très très centrale et ça fait partie du... C'est au cœur de nos préoccupations, en fait, de nos motivations aussi, parce qu'on veut vivre l'interculturalité et c'est une richesse, vraiment. Et ces communautés-là, ces sœurs-là qui viennent de différents... du Honduras, comment... Parce qu'il y a le danger de la culture dominante. Hein?
Oui.
Et c'est comment ne pas tomber dans ce piège-là et au contraire, accueillir notre sœur et vraiment vivre l'interculturalité au sein du charisme de la congrégation Notre-Dame, mm-hmm. parce que c'est un charisme unique et puis avec toutes ces richesses. Donc, c'est s'accueillir et vouloir aussi comprendre et connaître, pas juste comprendre, mais vivre la culture de l'autre en se respectant et en soi-même aussi dans notre propre culture, mais vraiment s'enrichir, que ça soit vraiment interculturel. Et
Un beau défi. Martin?
C'est vrai que l'inculturation, c'est jamais facile. Nous, on est d'un ordre qui a 179 monastères à travers plus d'une cinquantaine de pays. Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur de notre communauté, on ne vit pas ce défi-là comme tel. Mais quand on se rassemble dans les chapitres généraux, c'est sûr que là, il faut tenir compte à la fois des autres cultures, surtout quand on fait des fondations. Une communauté française qui fait une fondation en Afrique, c'est là que le discernement doit s'opérer, c'est-à-dire comment transmettre un charisme sans faire, on va le dire, là, colonisation.
Oui,
là.
Oui.
Ça a été fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Alors ça, j'espère qu'on a tendance à éviter un peu ça, évidemment, dans l'avenir. Mais je dirais le plus gros défi, c'est vraiment, enfin, dans nos communautés, c'est l'intergénérationnalité. C'est là, qui est le plus difficile, c'est-à-dire de voir qu'auparavant, il y avait des personnes qui entraient de chaque génération. Et maintenant, il y a des gaps, si vous voulez, excusez-moi le terme anglais, mais il y a des écarts entre des générations, ce qui fait qu'il y a des personnes dans la trentaine, puis après ça saute dans la cinquantaine, soixantaine. Mais les défis sont toujours en même temps, toujours deux côtés, c'est toujours un tremplin pour vivre l'Évangile.
Alors,
mais en même temps, il ne faut pas occulter ni faire l'économie des défis que ça représente quand même dans une communauté, à tous les niveaux. Hein.
Sœur Ginette, sur la dimension intergénérationnelle?
Ça demande un dialogue et ça demande une acceptation de nos différences et d'aller, dans le fond, communier à ce que l'on vit chacune profondément et où on peut se rejoindre. Et dire que nos différences, un moment donné, qui peuvent devenir des pauvretés, peuvent, si on accepte, peuvent devenir des tremplins pour aller vers l'autre, pour s'ouvrir finalement et non pas rester chacun sur sa position.
Ouais.
Ça demande beaucoup un travail sur soi-même pour s'ouvrir.
Oui,
beaucoup.
Ouais. Sœur Violaine?
Et dans ce travail dont tu parles, Ginette, ce travail sur soi implique de connaître les défis propres à chaque âge parce que c'est vrai que dans la quarantaine, on n'a pas les mêmes défis, les mêmes, que dans la soixantaine, 70 ans. Et de se connaître et de connaître aussi les défis que l'autre peut traverser. Et c'est de se parler. Le dialogue, c'est toujours un chemin de... En fait, c'est un chemin de vie, de bonheur et de joie pour une vie communautaire. Et donc, d'accepter de dialoguer avec l'autre, d'accepter aussi de communiquer à ma compagne qui est plus âgée, ben telle chose, moi, c'est comme ça. Et vice-versa, là. Donc, oui. Moi, quand je te dis ça, ben je veux pas te prendre pour quelqu'un qui est pas capable de descendre les escaliers. Ou, mm-hmm. Donc, vraiment, d'oser le vrai, hein, la vérité, oui. Puis le dialogue. Oui. Puis, bon, on tombe, puis on se relève. Hein.
Oui, ben oui. Il y a le théologien Rick Van Leer qui soulignait l'aspect que dans la société en général, on compartimente, hein, les générations, tandis que dans les communautés religieuses, il y a ce refus de compartimenter les générations.
Oui.
Ça, c'est un signe, justement, c'est une dimension d'espoir, d'espérance.
Oui.
Là,
qui
en fait, c'est beau aussi de côtoyer des générations plus vieilles que nous, mm-hmm. parce qu'on apprend beaucoup. Nous, les anciens, on les garde jusqu'à la fin. On est en infirmerie, mm-hmm. je veux dire. Bon, mm-hmm. c'est sûr que si on a besoin de soins pour les hôpitaux, ça va de soi, mais mm-hmm. dans notre société d'aujourd'hui, ce qui est dans les deux extrêmes, les enfants et les vieillards, je veux dire, sont comme un peu écartés parce qu'ils ne sont pas productifs. Pourtant, ils ont la sagesse en eux, les deux, notamment les enfants et les vieillards. Alors, je pense qu'on a vraiment quelque chose à apprendre. Et en même temps que c'est un défi, comme je disais tout à l'heure, mais aussi c'est une richesse. Mais c'est sûr qu'il faut avoir l'œil attentif et le cœur ouvert aussi à ce qu'on vit ensemble.
Oui.
Est-ce que c'est... en fait, je pense que l'ancien responsable, directeur des Dominicains, Timothy Radcliffe, qui disait que c'est à la fois le désir d'une communauté qui attire beaucoup de jeunes à la vie religieuse, mais que c'est cette même vie communautaire qui fait que certains ne restent pas. Donc la vie en communauté attire, puis en même temps, elle n'est pas facile à vivre. Vous le savez probablement mieux que moi. Donc, elle n'est pas facile à vivre et que ça peut devenir un facteur où on en sort de cette vie. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez, vous, de votre côté?
Bien, je pense qu'on a besoin de coaching.
Mm-hmm. Ouais.
Dans le sens où, moi, j'ai un accompagnateur et une chance qui est là.
Mm-hmm.
Parce que j'ai un espace où je peux dire, écoute, ça, là, je suis juste pas capable.
Ouais, oui.
Et lui, avec son regard, son expérience, est capable de relativiser, de m'accueillir là-dedans, de relativiser et de me redonner un autre regard que moi, je suis pas capable de me donner.
Mm-hmm.
Et ça m'aide beaucoup à intégrer des éléments de notre vie communautaire.
Oui. Quelqu'un d'autre veut réagir sur cet aspect?
L'accompagnement que souligne Ginette, oui, c'est important. Ça donne un recul et une autre perspective. Mais aussi, bon, je redis, le dialogue... C'est pas facile, mais en même temps, la connaissance de ce que l'autre peut vivre, moi, ça m'aide beaucoup à, OK, oser le dialogue, mais aussi l'accueillir comme une richesse, hein, comme a dit Martin. Puis, moi, je pense que d'un point de vue d'une communauté plus grande, là, du groupe comme... je parle de notre congrégation dans son ensemble, nos sœurs aînées sont attentives, en autorité, sont attentives à nous rassembler, les jeunes membres, pour... consolider aussi,
partager
puis oui. voir qu'est-ce qu'on a, comment on envisage la vie religieuse à la CND pour au présent mais pour l'avenir et ça pour moi c'est une grande richesse, une grande ouverture que ma communauté m'offre de vivre avec mes sœurs du Cameroun, du Honduras et du Japon, des États-Unis.
Donc soutien par les pères.
Par les pères, mais aussi richesse de l'intergénérationnel.
Mm-hmm. Oui. Il y a le défi... Oui, Frère Martin.
En fait, on retrouve ça aussi, ça me fait un peu sourire, cette histoire de la vie communautaire, mais on retrouve ça aussi chez les couples. À chaque fois qu'il arrive une petite difficulté, c'est comme si on n'était pas, je ne veux pas généraliser, mais capable de passer à travers de ça. Je veux dire, c'est pas parce qu'il arrive des difficultés en vie communautaire qu'on n'est pas fait pour la vie communautaire. Oui. Je veux dire, il y a d'autres aspects à un moment donné. Il faut prendre aussi le pour et le contre, puis pouvoir avoir la capacité de persévérer à travers tout ça. Je veux dire, voilà, je sais pas parce qu'on est dans une vie communautaire, puis c'est la même chose dans la famille. Aussi qu'il arrive un obstacle ou en amitié, on a des positions contraires, on sauve. Et puis là, il y a un manque de maturité puis d'ouverture aussi de la part des personnes, je veux dire.
Est-ce que, à vos yeux, est-ce que l'engagement perpétuel est encore un élément essentiel à la vie religieuse, sachant que les jeunes vivent dans un monde d'engagement à court terme aujourd'hui, que ce soit au travail ou dans leur vie personnelle? Est-ce qu'une autre forme d'engagement, peut-être moins radicale, est-ce que ça faciliterait pas l'émergence d'une relève plus nombreuses, si on pense aux défis que peut représenter la relève, justement?
C'est une grande question.
Oui.
Non, je trouve la question intéressante. En fait, j'ai pas de réponse toute faite à cette question-là, je dois avouer. Mais c'est parce que ça... Il y a aussi des défis qui sont reliés à ça. Je veux dire, quand on veut assumer ou assurer la perpétuité d'une communauté, il faut aussi qu'il y ait des engagements à long terme, forcément. Mais encore une fois, je suis un peu dépourvu parce que j'ai pas... la question a déjà été abordée, je veux dire. Puis je pense qu'elle mériterait de le faire, mais encore une fois, je...
Une grosse question. Bien, c'est une question qui est intéressante parce qu'on le voit de plus en plus. Moi, les personnes que j'ai accueillies en tant que maître des novices, ils ont quitté justement à cause de ça. C'est parce que l'engagement fait peur aujourd'hui.
Mm-hmm.
L'engagement fait en sorte qu'à un moment donné, on se dérobe, tout simplement. Puis ça fait partie de notre culture de l'immédiat. Tu sais.
Mm-hmm.
Alors, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut y réfléchir parce que ça fait partie de notre histoire.
Oui.
Alors.
Ah oui. Sœur Ginette?
Moi, j'ai l'impression que des engagements à court terme ou temporaires n'attireraient pas davantage. Moi, je crois à l'engagement perpétuel parce qu'on a besoin de ce don total pour nous motiver, pour nous donner un but, pour nous orienter. Et je crois qu'à quelque part, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie religieuse ou même pour une cause, quand quelque chose nous tient vraiment dans les tripes, on veut se donner en entier.
Oui.
Alors, quelque chose d'à moitié, ça ne satisfait pas à quelque part à l'intérieur.
Oui. Et ça rend ce choix, cette décision de faire les vœux perpétuels, ça lui donne toute sa charge symbolique aussi, là, j'imagine. Oui, sœur Violaine?
Tout à fait. L'engagement perpétuel, bon, moi, je chemine vers et c'est comme une boussole aussi pour ma route. Ben, c'est d'abord le Christ, mais c'est avec lui que je désire m'engager pour toujours. Mais c'est sûr que faut pas comparer l'engagement perpétuel au mariage, mais en même temps, c'est un engagement total. Mm-hmm. C'est un engagement qu'on veut pour toujours, qu'on veut croire.
Ben oui.
Et le fait qu'on le remette en question, est-ce que c'est parce que justement, ou que ça nous questionne, ou parce que justement le mariage lui-même a de la difficulté, mais en même temps, c'est donc sain, c'est donc bon et sain de voir des couples qui sont fidèles et qui traversent des périodes moins faciles, mais comme des périodes heureuses et qui peuvent témoigner. Moi, j'en parlais avec une compagne récemment d'être fidèle dans cet engagement-là au sein du mariage, c'est un rayonnement sur les personnes qui les entourent.
Oui.
Et ça tient, puis c'est beau, puis et je pense que c'est la même chose pour la vie religieuse.
Voir que c'est possible.
C'est ça. Montrer que la fidélité est possible.
Oui, et que finalement, l'aboutissement normal, c'est le bonheur. Il y a un accomplissement dans ça. Il y a une plénitude qui vient avec.
Oui, oui. Oui.
Qui se goûte petit à petit.
Oui.
Mais qui est là.
Avec sa part de doute ou avec sa part. Mais le vœu perpétuel donne sens. J'aime bien l'image de la boussole sur Violaine. Est-ce que les nouvelles technologies constituent une chance ou une voie d'avenir pour la vie religieuse ou est-ce que c'est plutôt un défi? Ou est-ce que c'est les deux?
Je pense que c'est une voie d'avenir. Ça peut rester un défi quand même.
Surtout
les
congrégations de Notre-Dame est assez efficace avec les nouvelles technologies d'ailleurs.
et puis je vois que les gens consultent beaucoup notre site. Et bon, on a toute une équipe qui travaille pour et des sœurs, ils sont impliqués aussi, et des laïcs. Mais c'est vraiment bien. Et ça donne un souffle. Moi, je pense que c'est un plus. C'est un plus, mais ça peut... Je comprends que ça peut être un défi. Notamment sur les réseaux sociaux. Moi, je ne publie pas grand-chose là, tout le temps, mais je sais que ça pourrait nourrir la vie, l'engagement dans cette vie religieuse. Et pour ceux qui se questionnent, ben d'être un témoin de encore je répète souvent le témoin de lumière mais témoin de vie puis de bonheur de joie c'est important.
Tout dépend comment c'est utilisé.
Mais exactement.
C'est ça.
Je mets des photos qui n'ont pas rapport, tu sais, c'est ça dépend comment c'est utilisé.
Sur la technologie, sœur Ginette?
Oui, ça a sa juste place, je crois. Je m'occupe du site web pour ma communauté et je pensais jamais aboutir à ça. Vraiment, jamais. Et c'est une sœur de ma communauté qui m'a initiée. Et depuis qu'on a refait le site, et même avant, mais surtout depuis, le nombre de personnes qui découvrent l'hôtellerie à travers le site,
le web,
c'est inimaginable. Et les personnes qui s'intéressent à la communauté au niveau vocationnel, les dernières, c'est toutes par le site web. Alors oui, il y a une présence, il y a une ouverture au monde, mais à sa juste place. Perdre des heures et des heures, non. Nous, on a fait un discernement pour les réseaux sociaux et on s'est dit, écoute, on a un site web, misons là-dessus, rendons-le pertinent, disons-nous un peu à travers ça. Oui. Et après ça, le Seigneur fera le reste, parce que lui, il a mille et un chemins pour aboutir.
Oui. Et en terminant, en quelques mots, qu'est-ce qui vous donne espoir pour la suite des choses? Espoir pour la suite, évidemment, de l'avenir de la vie religieuse. Donc, qu'est-ce qui vous donne espoir pour la suite des choses? Martin?
Ben, c'est des rencontres comme celle-ci.
Ah oui?
qui peuvent faire partager finalement l'amour de la vie consacrée. Puis je dirais les rassemblements qu'on a, parce qu'en novembre dernier, on a eu un rassemblement des jeunes de la vie consacrée. Donc je pense que ça a beaucoup rayonné sur le Québec, en fait, de voir que la vie religieuse par des jeunes est encore possible avec les formes qu'elle a présentement, et de se côtoyer, de se rencontrer, de dialoguer. Je pense que c'est ça l'espoir, en fait, parce que si on parle d'avenir, moi je la connais pas l'avenir. Ce que je peux faire, c'est construire sur le présent, et le présent, ça m'appartient, par exemple. Ouais. Alors c'est ce qu'on essaie de faire en tant que jeune, et qu'on essaiera de faire aussi en 2017 pour un nouveau rassemblement des jeunes de la vie consacrée.
Ah ben on y sera. Sœur Violaine?
J'allais dire la même chose que Martin. Ce qui me donne espoir, c'est le ici et maintenant, ce qu'on vit avec toi ici et ensemble. Puis oui, de se mettre ensemble des gens de différentes communautés aussi pour s'apporter notre différentes manières de vivre notre vie religieuse, mais toujours à la suite du Christ qui nous appelle.
Oui. Sœur Ginette?
Oui, et je vois dans le même sens en disant... avec une force communautaire. Dans le fond, même s'il y a une diminution, on a tous une vie communautaire et le Seigneur nous éclaire et nous guide au fur et à mesure avec les défis qui se présentent. Il y a toujours un chemin qui s'ouvre devant nous qu'on n'avait jamais pensé, qu'on dit « Ah, oh, gardons ça. OK, on va aller dans ce sens-là. »
Oui. Ouais.
C'est ça le plus beau, en fait.
Ouais. La confiance.
C'est statique, la vie, mais c'est pas ça. La vie, ça bouge, c'est en mouvement.
Ouais.
Alors, la vie religieuse, c'est la même chose, sauf que l'esprit nous parle, c'est juste d'être à l'écoute, et ça, on le fait pas tout seul, on le fait en communauté, normalement. On discerne ensemble.
En tout cas, moi, ce que je retiens aussi de notre rencontre, c'est la confiance. Je sens chez vous une confiance inébranlable. Donc, Sœur Violaine, Sœur Ginette, Frère Martin, merci beaucoup pour cette réflexion combinant lucidité et espoir autour de l'avenir de la vie religieuse. Merci beaucoup.
Merci à toi, Mathieu.
Je rappelle que Sœur Ginette Généreux est recluse missionnaire, que Sœur Violaine Paradis fait partie de la congrégation de Notre-Dame et que Martin Lortie est frère de l'Ordre des moines cisterciens. Merci encore à vous trois pour votre stimulante présence ces trois dernières semaines. Merci.
Merci.
Je m'appelle Mathieu Lavigne. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de ce troisième épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne. Un grand merci à Anne Willins à la régie. La semaine prochaine, on se penche sur les nouvelles communautés religieuses au Canada avec des membres de la famille Marie-Jeunesse et des fraternités monastiques de Jérusalem. D'ici là, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM.